Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un dimanche de Pentecôte placé sous le signe de la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier, le pape François a accueilli les présidents israéliens et palestiniens Shimon Peres et Mahmoud Abbas pour une rencontre de prière inédite dans les jardins du Vatican. Auparavant, dans la matinée, le Saint-Père avait invoqué le Saint-Esprit au cours d'une messe solennelle en présence de quelques 5000 fidèles. Et c'est bien sûr à cette journée extraordinaire que sera consacré l'essentiel de ce magazine. Ce dimanche soir au Vatican, les présidents israéliens et palestiniens se sont unis au pape François et au patriarche écuménique de Constantinople Bartholomée Ier pour invoquer de Dieu le don de la paix pour la Terre Sainte, le Moyen-Orient et le monde entier. Toutes les communautés catholiques avaient été invitées à soutenir de leurs prières ce rendez-vous tant attendu, une prière à laquelle se sont joints des croyants de différentes religions. Les deux présidents très souriants ont été accueillis par le pape François à la résidence Sainte-Marthe et ont eu chacun un court entretien avec lui. Puis quand ils se sont retrouvés, ils se sont salués chaleureusement et longuement, échangeant des propos aimables. Et c'est dans une ambiance détendue, presque familiale, qu'ils se sont rendus ensemble avec le pape François, le patriarche Bartholomée et le responsable de la custodie de Terre Sainte à bord d'un minibus jusqu'à une pelouse triangulaire près des musées.
Adonai Adonai-nou.
Dans un ordre respectant la chronologie de la naissance des trois religions issues d'Abraham, les représentants juifs, chrétiens puis musulmans ont eu un temps pour prier tour à tour et chacun sur trois thèmes choisis. La création, la demande de pardon et enfin l'invocation pour la paix. Les prières en hébreu, anglais, italien, arabe étaient accompagnées d'intermèdes musicaux. Chaque délégation avait choisi ses textes. Puis le souverain pontife et les deux présidents ont fait chacun leur propre invocation pour la paix.
Per fare la pace, ci vuole coraggio.
Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre, a affirmé le pape François dans son discours, évoquant avec des accents dramatiques les victimes innocentes de la guerre et de la violence, les nouvelles générations épuisées par les conflits. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement, oui à la négociation et non aux hostilités, oui au respect des accords et non aux provocations, oui à la sincérité et non à la duplicité. Constatant que les efforts de paix jusqu'ici ont été vains, le Saint-Père a expliqué que cette prière était un acte de suprême responsabilité. Il faut abattre les murs de l'inimitié, a-t-il lancé. Il faut rompre la spirale de la haine et de la violence avec une seule parole, frère. Mais pour prononcer cette parole, nous devons tous lever le regard vers le ciel.
Signore, Dieu di pace.
Et le pape François a adressé sa prière au Seigneur, Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots, division, haine, guerre. Seigneur, a-t-il prié, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère et que le style de notre vie devienne shalom, paix, salam, amen.
Shalom, pace, salam. Amen.
Et quand il a salué le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, le Saint-Père a qualifié sa participation de grand don, un soutien précieux, le témoignage du chemin que, comme chrétiens, nous parcourons vers la pleine unité. Les deux présidents ont rendu chacun un hommage appuyé à l'initiative du pape François. Tous deux ont insisté sur l'importance de Jérusalem, qui est au cœur de toutes les tensions. Le président israélien Shimon Peres a ainsi voulu se présenter d'emblée comme un homme venu de la cité sainte, Jérusalem, le cœur battant du peuple juif. En hébreu, a-t-il souligné le mot Jérusalem et le mot paix ont la même racine. Citant à plusieurs reprises l'écriture sainte, Shimon Peres s'est dit convaincu qu'Israéliens et Palestiniens peuvent apporter la paix à leurs enfants. Les larmes des mères sur leurs fils, a-t-il dit, sont gravées dans nos cœurs. Nous devons mettre fin aux cris, à la violence, aux conflits. Nous devons employer toutes nos forces pour atteindre la paix rapidement, même si cela demande des sacrifices et des compromis.
Bismillahirrahmanirrahim.
Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est exprimé quant à lui au nom d'Allah, suprêmement clément et miséricordieux. Il a prié au nom du peuple de Palestine, musulmans, chrétiens et samaritains, qui désirent ardemment une paix juste, une vie digne et la liberté dans un État souverain et indépendant. Citant Jean-Paul II, il a souligné que si la paix se réalise à Jérusalem, la paix sera témoignée dans le monde entier. Nous te demandons, a-t-il alors prié, de rendre la Palestine, et Jérusalem en particulier, une terre sûre pour tous les croyants et un lieu de prière et de culte pour les adeptes des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, et pour tous ceux qui désirent la visiter, comme il est décidé dans le Saint-Coran. Mahmoud Abbas a enfin souhaité une paix juste, la stabilité et la coexistence pour tous les peuples du Moyen-Orient. Signe de paix par excellence, un olivier a été planté. L'événement s'est achevé par une rencontre à huis clos au pavillon Picâtre, siège de l'Académie pontificale des sciences. Parmi les nombreuses personnalités présentes, il y avait aussi le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, invité spécial des deux délégations, avec l'approbation du Saint-Siège. Théophile porte en effet le titre de patriarche de la Sainte Cité de Jérusalem et de toute la Palestine. Il est le primus, le premier, de la communauté chrétienne de Jérusalem. Des cardinaux, des chefs et des rabbins était présent sur la pelouse des jardins du Vatican. Le président israélien Shimon Peres et le président palestinien Mahmoud Abbas qui se retrouvent pour prier ensemble avec le pape pour la paix au Proche-Orient dans les jardins du Vatican, le plus petit état du monde. C'est un événement sans précédent qui a suscité un vif intérêt bien au-delà des milieux concernés. Dès le début, le pape François avait averti qu'il ne s'agissait pas d'une médiation mais d'une invocation pour la paix. Aucun fruit immédiat n'en est attendu pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, mais cette initiative aura eu au moins le mérite de secouer les consciences, d'adresser un message aux croyants des trois grandes religions monothéistes et de montrer, selon les mots de Mahmoud Abbas, que le rêve de la paix ne doit pas mourir. Je vous propose d'écouter Mgr William Chomaly, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, interrogé quelques heures avant la rencontre.
Déjà, le fait lui-même est un miracle. Que le pape ait réussi à réunir les deux combattants, les deux ennemis traditionnels, c'est un petit miracle. Et le fait de prier ensemble, c'est un autre petit miracle. C'est merveilleux en soi. Il y a beaucoup d'espoir que le côté spirituel va sauver le côté politique. Parce que le côté politique a échoué. Monsieur Kerry n'a pas réussi à débloquer la situation. Maintenant, il ne reste que le Seigneur qui lui-même a dit de demander dans le psaume 122 de prier pour la paix de Jérusalem. Elle est vraiment historique pour plusieurs raisons. C'est la première fois que ça a lieu comme prière. C'est la première fois que ça a lieu au Vatican. Justement parce que c'est une rencontre non politique, une rencontre de prière, elle est merveilleuse.
Est-ce que le vrai changement apporté par le pape François, c'est de ne plus faire de la religion un problème, mais véritablement un avantage, c'est-à-dire se retrouver dans la prière pour une terre où la religion est souvent source de conflits et de tensions?
Ça, c'est vrai. La religion et les religions font partie du problème, car la ville sainte est une ville contestée parce qu'elle est sainte pour les trois religions. Et chacun veut plus de droits, plus d'égalité, disons. Maintenant, la prière sauve la situation, mais attention, la prière a lieu à Rome, pas à Jérusalem. Jérusalem reste réticente devant le fait de prier ensemble. Alors que cette prière aurait dû être faite à Jérusalem, c'était la première intention du pape quand il a invité les deux à prier à Notre-Dame d'abord, ensuite à Bethléem, mais ça n'a pas réussi pour des raisons politiques. J'espère que la prochaine fois, cette prière aura lieu à Jérusalem.
Mgr William Chomaly, auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Troisième fête chrétienne, la Pentecôte commémore le moment après Pâques où les apôtres ont reçu les dons de l'Esprit-Saint qui leur ont permis d'évangéliser. Elle marque la naissance de l'Église. Au cours d'une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre dimanche matin, le pape François a expliqué que l'Esprit envoyé par le Christ sur son Église enseigne, rappelle et aide à parler. C'est notre maître de vie qui nous guide sur le droit chemin dans les différentes situations de la vie. Jean-Baptiste Cocagne.
En cette fête de la Pentecôte, le pape François a demandé au Saint-Esprit de nous aider à dialoguer comme des frères, à parler aux autres avec amitié et tendresse, à comprendre leurs angoisses et leurs espoirs, leur tristesse et leur joie. Des paroles lourdes de sens prononcées à quelques heures d'un rendez-vous très attendu, impliquant deux peuples qui ne parviennent pas à s'entendre. Le Saint-Père était entré en procession dans la basilique Saint-Pierre, accompagné des cardinaux, archevêques et évêques de la curie romaine ou de passage à Rome, une centaine de prélats, tous revêtus de leur chasuble pourpre. L'Esprit fait de nous des vecteurs humbles et dociles de la parole de Dieu. Sa prophétie permet alors de démasquer les injustices, de désigner ouvertement les contradictions, mais toujours avec douceur et dans un esprit constructif. Évoquant la sagesse de la mémoire, autre don du Saint-Esprit, le souverain pontife a averti qu'un chrétien sans mémoire n'est pas un vrai chrétien. C'est un homme ou une femme prisonnier du moment qui ne s'est pas bénéficié de son histoire, un chrétien à mi-chemin. Après la messe, au moment de la prière du Regina Celli, devant quelques 100 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre, le pape François a exhorté l'Église à sortir dans l'espace public et à ne pas avoir peur de semer la pagaille.
La chiesa di Pentecoste è una chiesa che non si rassegna.
L'Église de la Pentecôte ne se résigne pas à rester inoffensive, en retrait, comme un objet décoratif. C'est une Église, au contraire, qui doit savoir surprendre, faire bouger les choses, aller à la rencontre des autres pour annoncer le message qui lui a été confié. Même si ce message dérange et inquiète les consciences, même si ce message lui cause des problèmes et l'expose parfois au martyr. Aujourd'hui encore, comme au temps des disciples du Christ, beaucoup voudraient que les chrétiens restent enfermés, mais une Église incapable de surprendre est une Église faible, malade, mourante. Elle a besoin d'être hospitalisée au service de réanimation. L'Église du Christ a une identité précise, mais c'est une Église ouverte qui embrasse le monde sans le capturer, comme la colonnade de la place Saint-Pierre, deux bras qui s'ouvrent pour accueillir, mais qui ne se referment pas pour retenir. Les chrétiens sont libres, l'Église veut qu'ils soient libres.
Deuxième partie de notre émission, Jean-Michel Severino est l'invité de ce dimanche. Il a été inspecteur général des finances et président du Partenariat français pour l'eau, ainsi que directeur général de l'Agence française de développement. Il est désormais gérant des Investisseurs et Partenaires, une société de gestion de fonds lancée en 2001 qui se consacre exclusivement aux PME d'Afrique subsaharienne en recherchant un impact social ou environnemental. Il est interrogé par Sœur Catherine Aubin. Wake up, send up
Africa. Michel Severino, à travers tout votre parcours, il y a une constante, le développement. Comment se fait-il que cette ligne rouge du développement vous ait suivi jusqu'à aujourd'hui ?
Je suis né en Côte d'Ivoire dans une famille d'origine italienne et j'ai grandi dans ce pays. Au départ, mes sentiments ne me portaient pas particulièrement vers les questions économiques, les questions de développement. J'étais simplement heureux en Afrique, j'ai grandi, j'ai fait une partie de mes études, je suis venu les poursuivre en France et j'ai toujours eu envie de travailler, de retourner dans cette terre que je trouvais magnifique avec des Africains que j'adorais, un monde qui était le mien. Quand j'ai terminé mes études à la fin des années 70, l'Afrique entamait une longue descente aux enfers dans ce qui s'est appelé l'ajustement structurel. Les problèmes de pauvreté se posaient de plus en plus, on ne pouvait plus penser que simplement vivre en Afrique pouvait être quelque chose de banal. Il se passait des choses tellement difficiles, tellement dures sur le continent, que vouloir rester en relation avec ce continent impliquait de vouloir contribuer à apporter des solutions aux questions de pauvreté, aux questions de croissance. Et pour ma part, ayant acquis une formation d'économie, je me suis embarqué finalement à travers le service public français dans ce compagnonnage avec les pays qui s'étaient engagés dans l'ajustement structurel, essayer de le rendre plus rapide, plus efficace, moins douloureux possible. Donc mon fil rouge est plutôt l'Afrique que le développement, parce que c'est vraiment l'amour de ce continent qui m'a retenu, qui m'a capturé. Et c'est à cause de l'Afrique que je me suis engagé dans les sujets de développement et que je ne les ai plus lâchés, puisqu'après, j'ai eu l'occasion d'être recruté par la Banque mondiale qui m'a fait travailler sur l'Asie et l'Europe centrale après une expérience qui avait été très, très dense et un peu traumatisante sur le plan africain. Aujourd'hui, bien entendu, la situation africaine n'est plus du tout la même que celle des années 70. Et donc, ce long parcours m'a amené à faire aussi plusieurs révolutions intellectuelles et psychologiques sur moi-même au fur et à mesure des événements qui ont agité notre planète et en particulier l'Afrique.
Alors, quand on vous écoute, Jean-Michel Severino, l'Afrique, le fil rouge, comment vous l'avez d'abord concrétisé quand vous étiez plus jeune ?
J'ai concrétisé les défis qui m'ont attaché tout simplement en voyageant et en voyant les conditions de vie des gens. Quand vous naissez blanc dans une famille d'expatriés, vous bénéficiez de conditions de vie qui vous-même personnellement vous mettent à l'abri de l'horreur de la misère. Mais aussi protégé que soit votre environnement, vous ne pouvez pas échapper à la vision de ce qui vous entoure. Et c'est encore plus vrai à mesure que vous grandissez, que vous devenez étudiant, que vous voyagez, que de manière plus autonome vous découvrez la réalité du monde. Ce qui était saisissant, c'était pas tant la pauvreté que son accroissement. Dans les années 70, il était tellement évident que nous étions sur une pente d'accroissement de la difficulté de vie d'une très grande majorité des Africains et qu'il n'y avait aucun horizon de sortie à court terme, que c'était incroyablement interpellant. C'était difficile d'être dans cette relation affective avec le continent et pas se sentir obligé de participer à quelque chose. Alors, quand on fait ses études, on le finit, on ne sait pas toujours très bien quoi. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment analyser ce qui se passe. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Hein, et que seule l'action, et puis la vie professionnelle, vous permet progressivement de comprendre et de capturer. Donc je ne savais pas très bien exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me disais qu'il fallait absolument faire quelque chose.
Est-ce que l'on peut lier ça à ce que vous avez étudié, à savoir le micro-développement?
Absolument. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons mis sur Internet le financement d'une activité en Mauritanie. Nous avons sollicité 15 000 euros des internautes dans le cadre de ce qui s'appelle le crowdfunding. Vous savez, ces activités où chacun peut prêter 10 euros, 25 euros, 30 euros. Donc nous avons sollicité les internautes pour financer à hauteur de 15 000 euros une des sociétés dont nous sommes devenus actionnaires et que nous promouvons et qui consiste en Mauritanie à apporter de l'eau et de l'énergie aux populations rurales. Alors c'est une société qui est née il y a une dizaine d'années. Au début, c'était une ONG d'ailleurs. Elle s'est transformée en entreprise parce qu'elle a découvert qu'elle pouvait vendre ses services d'eau et d'électricité aux populations qui étaient désireuses de les acheter. De ce fait, elle pouvait financer son propre développement sans avoir à recourir à des dons. Et de ce fait, elle pouvait atteindre beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement que dans son schéma antérieur d'ONG. Cette société, en l'espace de 3 ans, depuis que nous y sommes, a créé 60 emplois. Elle a apporté à plus de 30 000 personnes de l'eau et de l'énergie, des populations extrêmement pauvres, donc de l'ordre de 3 000 familles nouvelles qui ont été desservies par cette entreprise. Et dans le cadre de cet appel aux internautes, nous avons commencé à essayer de financer la transformation de son approvisionnement en diesel, parce qu'elle fonctionne avec des groupes électrogènes diesel, en groupe alimentation solaire. Donc on voit que quand on est dans ce genre d'activité, on donne accès à de l'eau et de l'énergie à des gens qui n'en avaient pas. Non seulement on améliore leurs conditions de vie en termes de confort, mais on leur permet d'avoir accès à des services qui n'existaient pas jusqu'auparavant. Dans les villages où intervient désormais CDS, c'est le nom de cette entreprise, on trouve des infirmeries avec des frigos dans lesquels on peut conserver des médicaments. C'était impossible il y a simplement 2 ans ou 3 ans. Dorénavant, avec les systèmes d'adduction d'eau, dans ces villages, les gens peuvent déployer des périmètres irrigués et faire pousser des primeurs. Et en introduisant des technologies de ressources renouvelables, énergétiques renouvelables, on donne encore plus de pouvoir d'achat aux gens et on fait tout ça dans des conditions dont l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale, s'améliore de plus en plus. Et on est obligé de penser en même temps le service social, la dimension environnementale. Et si on y parvient, on finit par avoir un gain à 360 degrés et à transformer profondément et durablement les conditions de vie d'un nombre très significatif de personnes.
Jean-Michel Severino, l'image qui m'est venue, c'est cette parabole des talents. Quand le Christ prend 3 hommes, il donne à chacun la même somme, plus ou moins la même somme, et il y a ceux qui rapportent le double, et puis celui qui l'enterre. Et il me semble, quand je vous écoute, que ce que vous dites, Jean-Michel Severino, c'est un appel à cultiver tous les talents que nous avons ici en Europe, mais pas seulement, aussi en Afrique, parce qu'il y a une multiplication qui peut se faire.
Votre référence à la parabole des talents est très émouvante et elle désigne, je crois, exactement l'esprit de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Sa version profane serait apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Et je dirais, notre chance, c'est que les Africains ont beaucoup de talents. Il y a des ressources humaines admirables, Je viens de vous parler d'une entreprise mauritanienne. Le personnel et ses dirigeants sont des gens absolument extraordinaires. Ce sont des héros. Ils défient, ils surmontent des difficultés absolument incroyables dont nous n'avons aucune idée. Et ce qu'il y a d'exaltant dans ce travail, c'est que, avec toute son humilité, sa modestie, son caractère à terre, son dimension très pragmatique, il permet à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme de fructifier.
Merci Jean-Michel Severino.
Merci à vous.
Et c'est sur cet entretien avec Jean-Michel Severino que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.